الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث رواه مسلم. شيخ خير عن الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de faire la salat al-Isha en congrégation et de s'asseoir quelques instants pour parler du dîn d'Allah, de la religion d'Allah, pour étudier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de se rapprocher un petit peu, au moins, pas besoin de parler fort et on ne gêne pas les gens qui font la salat autour de nous. Le hadith qu'on vient de lire, c'est un des hadiths de base de l'islam. C'est un des hadiths les plus importants, un des hadiths basiques que normalement tout le monde connaît. Ce hadith est connu sous le nom de hadith Jibril. Quand on parle du hadith Jibril, en général, on fait référence à ce hadith. C'est lorsque l'ange Jibril, en français qu'on appelle l'ange Gabriel, le même ange qui a porté la Torah à Moussa alayhi salam, le même ange qui a porté le Injil, la Bible, à Isa alayhi salam, à Jésus, et le même ange qui a porté le Coran à notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange Jibril alayhi salam était cet ange qui faisait l'intermédiaire entre Allah et notre prophète alayhi salat wa salam pour la révélation. Mais dans le hadith qu'on vient de citer qui se passe à Al-Madinah al-Nabawiyah, dans la masjid al-Nabawi, notre prophète alayhi salat wa salam est assis avec des sahabas, comme nous sommes assis là en ce moment. Alors qu'ils sont assis, et déjà il faut savoir que lorsque les sahaba s'asseyaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était avec un maximum de respect. Parce qu'ils avaient en face d'eux le meilleur des hommes. Ils avaient en face d'eux Nabiullah, le prophète d'Allah, l'élu d'Allah. Celui à propos duquel il y a eu la promesse que si on le suit, on aura le contentement d'Allah. « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Yuhibbukum Allah. » Celui qui aime Allah, qu'est-ce qu'il doit faire? Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Avec tout ce qui implique comme dévouement et amour pour cet homme. Donc le sahaba s'assoit avec beaucoup de respect autour du prophète alayhi salatu wa sallam. Et pour eux, c'était un grand honneur que d'être le plus proche de lui. Alors qu'ils sont assis, il y a un homme qui arrive. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, je rappelle le contexte, on est à Madina, on est dans un, on le dit, c'est un, dans un village, on est dans le désert. Et la population, hein, on connaît Yaki, on connaît les tribus, les grandes familles, donc on connaît à peu près tout le monde. Et quand il y a un étranger, tout de suite on sait que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Petite parenthèse, mais la différence de notre époque, nous quand on voit un étranger, tout de suite on a peur. Hein, c'est qui ça? Sort de quel quartier? Il sort tout. Regarde sa tête, regarde sa barbe. C'est pas un terroriste, c'est pas un intégriste, c'est pas quelqu'un qui vient faire n'importe quoi, qui va essayer de détourner les gens. Tout de suite quand on voit un étranger, nous, on a des suspicions, des doutes. Ce qui fait qu'on ne va jamais vers les gens, qu'Allah nous pardonne. C'est peut-être le climat ambiant, c'est peut-être avec toute la désinformation qui a travers les médias que, Wallah Musta'an, nous sommes arrivés à ce point. Alors que dans l'islam, accueillir un invité, un étranger, lui accorder l'hospitalité, lui donner à manger, ça c'était à la base de nos valeurs. prophète Ali, salat wa salam, avait dit, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au paradis? Sahaba dit, au prophète d'Allah, il a cité des actions, hadith très connu. Et parmi ces actions, il a dit, prier la nuit alors que les gens dorment. Niyam. Et parmi les actions qu'il a dit, faire le salam, bien sûr, faire le salam à ceux qu'on connaît, à ceux qu'on ne connaît pas. Et là, ce qui nous intéresse parmi ces actions, donner à manger aux gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus de nos jours, Allah Mustan. Parce qu'on a peur de l'étranger, on a peur des gens qu'on ne connaît pas. Alors que le sahaba, pour eux, un étranger qui vient, c'est l'occasion d'accueillir une personne, de lui offrir l'hospitalité, de lui donner à manger, d'obtenir le contentement d'Allah en faisant le khidma d'un être humain, d'un mu'min. Donc, il voit un homme qui vient d'ailleurs, qu'on ne connaît pas. Et ce qui était paradoxal avec cet homme, c'est que c'est un voyageur, mais en même temps, ses vêtements étaient blancs, propres. Et il n'y avait aucune trace de fatigue, ni du voyage. Alors qu'à cette époque, quand on voyageait, c'était 10 jours, 15 jours, à dos de chameau ou à cheval. Donc, quand quelqu'un revient d'un voyage, ben, on voit trace de la poussière, le sable, etc. On voit que c'est quelqu'un qui a voyagé. Là, on ne voyait pas. C'était comme quelqu'un qui venait de mettre les plus beaux habits, mais en même temps, c'est un étranger. Donc, on n'arrive pas à comprendre c'est qui, premièrement. Première interrogation, premier étonnement. Deuxième étonnement, qui peut rimer un petit peu avec agacement, mais vous voyez le akhlaq des sahaba, ils n'ont rien dit. L'homme, on va dire, excusez-moi l'expression, grille la priorité à tout le monde. Il passe devant, il se profile, tac, 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 et il s'assoit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça se fait pas, ça. C'est comme si que quelqu'un il est là depuis, mashallah, Salatul Jum'a, il est à 13h, il y a des gens qui sont là depuis 11h. Ils font l'effort, là. Et quelqu'un arrive, midi 58, il dit, avance-toi, je m'assois. Ça se fait, ça. Ça, c'est contraire aux règles de adab, de bienséance, de politesse. Alors, cet homme, il s'assoit devant le prophète sallam. Et il prend la parole. Alors là, ça c'est vraiment adib. Alors que c'est le prophète qui parle, le sahaba écoute. Mais lui, il prend la parole et il commence à poser des questions. Et le sahaba, subhanallah, ça c'est une des particularités, il ne posait pas beaucoup de questions. Parce qu'il savait que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aimait pas qu'on posait énormément, excessivement des questions. Parce que parfois qu'on pose des questions, après, comme il dit, fatigue la tête, ça. Après, parfois, c'est des insufflations de shaitan qui vous fait demander telle chose, qui vous fait douter. Il posait les questions correctement et les bonnes questions. Mais quand un étranger venait, il savait que c'est quelqu'un qui vient de loin, et il va poser plein de questions sur la religion. Dans un sens, ils étaient contents. Mouhadithine explique quand un étranger venait, il allait poser des questions, les sahabas étaient contents. Parce qu'il allait poser plein de questions, parce qu'il a plein, il a comme une liste de questions à poser pour amener à son village ou l'endroit où il habite pour dire voilà, j'ai vu le prophète de l'islam et il m'a enseigné telle chose. Donc ils écoutent. Et l'homme pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit oh Mohammed. Déjà, il l'appelle pas Mohammed. Ce qui est un manque de respect. Les sahaba appelaient toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam par au prophète d'Allah, ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Il lui dit ya Mohammed. Donc, là aussi, les sahaba n'ont pas réagi. Ils n'ont pas manqué de respect au prophète, ni à l'assemblée. Ils sont restés calmes. Ils écoutent. Il dit akhbirni anil islam. Informe-moi, c'est quoi l'islam? Question de base. Et on est où? Qu'est-ce qu'on a dit au début? On est dans quelle ville? On n'est pas à Mecca. À Mecca, on peut se dire que c'est au début de l'islam, il y a beaucoup de convertis, les gens ne connaissent pas, il faut enseigner. Non, on est à Médina. Dire que le prophète sallam a déjà passé combien d'années à Mecca tout le Mukarrama? 13 ans. 13 ans déjà. Et tout le monde sait en général que les 13 années de Mecca, c'était pour renforcer la aqidah, la croyance de le cœur des musulmans, des sahabas. C'est ce que beaucoup y pensent. Si on regarde la chronologie de l'histoire de Tashri', effectivement, à Mecca, il n'y avait pas de a'mal précis, il n'y avait pas d'action précise, si ce n'est la salat qui a été rendue obligatoire quand? Lors du Isra ou al-Mi'raj, lors du voyage nocturne. Mais jusqu'à le voyage nocturne, il n'y avait pas une action qui était obligatoire. Un amal, une action comme la salat, le saum, le jeûne, le hajj, la zakat, il n'y avait rien de tout ça. C'était uniquement l'enseignement de la foi du iman. Donc beaucoup de gens pensent qu'à Madina, c'était que les actions. Certes, à Madina, il y a eu en l'an 2 de l'Hégire, la salat, le ramadan, la zakat, et puis quelques années plus tard, il y a eu le hajj. Mais ce hadith prouve bien que même à Madina, al-Munawwara, al-Nabawiyya, les sahaba, ils continuaient à perfectionner le iman. Ils continuaient à travailler, à perfectionner leur foi. Parce que mes chers frères, il faut bien réaliser que si le iman est faible, les actions ne vont pas suivre. Si le iman en Allah est faible, les a'mal salihah, les actions, ne vont pas suivre. On aura du mal à faire de bonnes actions. Un. On aura du mal à résister au, dites-moi, au, face au péché. Quand quelqu'un a une foi, un iman qui est faible, il y a une tentation. La tentation, ça peut être une jolie fille, ça peut être un emprunt avec la banque pour avoir quelque chose, ça peut être manger quelque chose qui n'est pas bon, quelle que soit la nature du péché, ça peut être quelque chose qu'on écoute, ça peut être quelque chose que je regarde. On a parlé de filles, mais de nos jours, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, à la télé, sur internet, sur tout ce que vous voulez. Donc quand l'iman est faible, on a du mal à résister au péché. Alors qu'un bon musulman, un mu'min, celui qui travaille sa foi pour arriver vers la taqwa, c'est quelqu'un qui en même temps fait de bonnes actions et en même temps il s'éloigne des... Sinon on n'avance pas. Si quelqu'un dit je fais de bonnes actions, baisse, je fais salat, le ramadan arrive à grands pas. Je jeûne, je lis le Coran, je fais le dhikrullah, je fais qiyamul layl, salat tarawih, je fais plein de choses, mais le soir je fais la fiesta. Le soir je bois, le soir j'écoute la musique, le soir je suis avec mes copines, etc. Ou alors que dans le ramadan, allez, on va dire le meilleur cas de figure, je ne fais pas toutes ces bêtises, je me rappelle le Eid, c'est fini, c'est parti. On rattrape tout. Mais on perd tout. C'est comme quelqu'un qui fait un pas en avant et qui fait un pas en arrière. Ou quelqu'un qui fait 30 pas en avant et qui ensuite va faire 30 pas en arrière. Vrai iman, comme les sahaba, ils avaient, c'était l'accomplissement de bonnes actions et en même temps l'éloignement des péchés. Et quand est-ce qu'on arrive à ce degré-là? C'est quand le iman est travaillé et renforcé. C'est pour ça que l'ange Jibril vient faire, on appelle ça un mudhakara, un rappel. Il vient rappeler aux musulmans c'est quoi le iman, c'est quoi l'islam, par le biais de questions et de réponses, par le biais d'échanges. Et quand quelqu'un a un haut degré de iman, pour compléter, il peut faire les bonnes actions, il peut s'éloigner des péchés et il sera patient dans toutes les situations de la vie. Quels que soient les problèmes, les difficultés, les épreuves, il aura une conviction, une certitude en Allah, ajib, inébranlable. Innama al-usri yusra, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Toutes les versets, les paroles d'Allah qui parlent de la confiance en Allah, la patience dans les difficultés, la nature, le but, l'objectif des épreuves, ben celui qui a une foi en Allah correcte, il pourra le faire. Donc c'est quelqu'un qui va, mashallah, s'en sortir facilement de sa vie de dunya et va réussir à construire sa vie de akhira. C'est pour ça que l'ange Jibril vient. Donc il demande tout d'abord au prophète alayhi salatu wassalam de l'informer qu'est-ce que l'islam. Et là le prophète dit que l'islam c'est la shahada, comme on a lu, la prière, les cinq prières obligatoires, la zakat, le ramadan et le hajj, le pèlerinage pour celui qui a la possibilité d'y aller. Et là la personne dit sadaqta. Et c'est là que les sahaba ils sont encore plus étonnés. Il y a tellement de choses qui les ont étonnés depuis que cet homme est entré dans la masjid. Et là, c'est le couronnement. Le prophète lui dit quelque chose, lui répond, et lui dit, tu as dit vrai. Les sahaba dit, fa'ajibna, yas'aluhu wa yusaddiqu. C'est comme si que quelqu'un qui vient vous faire un examen. Faites un examen à un élève, vous lui demandez c'est quoi telle chose, il vous donne la définition, puis il dit c'est bon, tu as une bonne note. Il dit que comment il peut oser faire ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les sahaba, ils écoutent. Ils disent rien parce que le prophète ne dit rien. Donc, ils disent rien aussi. Et là, il pose une deuxième question au prophète d'Allah. Oh, il n'a pas dit, fa'akhbirni, informe-moi, dis-moi qu'est-ce que le iman. On peut se dire, est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Al-islam, al-iman, on va dire, c'est deux notions qui regroupent les mêmes principes, mais il y a un petit décalage et là, on va voir la différence. Et là, quand le prophète alayhi salatu wassalam répond, c'est quoi le iman, la foi? Et là, il cite les six piliers de la foi. Croire en Allah, les anges, les livres révélés, les prophètes qui sont venus, le jour du jugement dernier, le destin, tout ce qui vient, comme bon, comme mauvais, ça vient de la part d'Allah. Et là également, il dit, tu as dit vrai. Et ensuite, il pose une autre question au prophète. Il demande, qu'est-ce que le ihsan? Et le ihsan, on verra aujourd'hui une autre fois, c'est le plus haut degré de foi. C'est le plus haut degré de iman. Et c'est l'objectif de ce hadith, on va dire, de notre intervention. Et c'est notre objectif à nous dans la vie, à travers toutes nos actions, atteindre le plus haut degré de iman. Dit que le iman, c'est adorer Allah comme si que tu le vois. Et comme personne ne voit Allah, sache que tu dois avoir la conviction qu'Allah te voit. Dit que le musulman, lorsqu'il se prosterne, lorsqu'il jeûne, lorsqu'il fait le dhikrullah, il doit se figurer qu'Allah, il doit être persuadé qu'Allah est en train de le regarder. Il doit faire les a'mal comme si qu'il était devant le trône d'Allah. Avec la même certitude, la même conviction, donc il aura la dévotion et la concentration qu'il faut. Le hadith est encore long, mais on va s'arrêter sur ces points. Et les ulama, les muhadithines expliquent, donc dans ce livre de Riyad al-Salihin, Jardin des Vertueux, dit que nous voyons à travers ce hadith que le iman et le islam, en général quand il y a un des deux mots qui est cité, ça veut dire la même chose. Mais quand on parle de iman et islam, les deux sont cités dans un texte, le iman concerne tout ce qui est intérieur, les croyances de le cœur. Croire en Allah, les anges, les livres, tout ça c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Le islam, al-islam, ce sont les actions, al-jawarih, mahalluhu al-jawarih. C'est pour ça que lorsqu'on lui pose la question sur l'islam, il dit tout d'abord la shahada, bien sûr, parce que ça c'est la base, et il va citer les actions, la salah, le jeûne, le ramadan, le hajj, et la zakat, etc., etc. Il dit que donc, le croyant doit développer les deux choses en même temps. Et si quelqu'un a une faiblesse dans le iman, dans ses croyances, et on va commencer par le premier pilier du iman, Al-Iman Billah. S'il n'y a pas de croyance en Allah, il n'y a même plus besoin d'aller voir ce qui est à côté. Celui qui n'a pas une croyance en Allah qui est correcte, les jawanih, les actions qu'il va faire avec ses membres ne seront pas correctes. Soit il aura du mal à les faire, soit dans des difficultés il va les abandonner. Il y a plein de gens qui dans une situation difficile, ben, on ne fait pas la salah, on fera après. Là on ne peut pas, je suis pressé. Quelqu'un qui vient régulièrement à la masjid et tout, mais s'il y a un problème, il est pressé, il a besoin de faire les courses, il va manger chez quelqu'un, il ne fait pas la salah. Ça veut dire que la réalité de la salah n'est pas entrée dans le cœur. C'est-à-dire que le iman n'est pas assez fort, n'est pas assez formé pour que le croyant comprenne quel est l'objectif de la salah. Parce que dans une mosquée, tout le monde, alhamdoulilah, le nombre de personnes qui étaient là, salat al-Isha. Donc regardez, on va voir dans le mois de Ramadan, mashallah, le nombre de gens qu'il y a dans le mois de Ramadan. Les a'mal bil-jawarih, c'est les actions qu'on fait avec les membres, beaucoup de gens le font. La plupart des croyants le font. Regardez le nombre de personnes qui jeûnent, le nombre de musulmans, je veux dire, qui jeûnent, on va dire, c'est presque 100% de musulmans qui jeûnent durant le mois de Ramadan. Maintenant, ça c'est l'action qu'on accomplit avec les membres. Mais si, à la base, le iman n'est pas formé, l'action va être accomplie, mais elle va peut-être vaciller parfois. Elle va être légère, pas solide. Dans les cas de difficulté, on peut l'abandonner. Et le gros problème également, c'est quoi? C'est que quand le iman n'est pas solide, l'action ne donne pas le résultat qu'il faut, le natija. L'objectif n'est pas atteint ou risque de ne pas être atteint complètement par le biais de l'action. Regardez quelqu'un qui prie normalement, il doit s'arrêter de faire tous les péchés, oui ou non? Oui. Quelqu'un connaît le verset? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Théoriquement, selon le verset, la prière, la salat, éloigne du turpitude et du blâme, c'est-à-dire éloigne des péchés. Mais si on analyse notre vie, moi en premier, tout le monde, chaque croyant ici présent, on se rend compte que certes, alhamdoulilah, on a accompli la salat, mais malheureusement, on continue à faire des péchés. Ce qui veut dire que la salat, son résultat, l'objectif n'est pas atteint. Et l'objectif n'est pas atteint, pourquoi? Parce qu'à la base, le iman n'est pas formé correctement. Les bases, on va dire qu'on n'a pas mis les murailles autour du iman et on ne connaît pas suffisamment Allah. Et c'est vraiment ça la clé. Le croyant, quand il se prosterne, quand il s'abstient de manger et de boire dans le mois de Ramadan, il le fait parce que c'est sa religion, c'est une obligation, ou alors tout le monde le fait, ou il a appris qu'il faut faire, c'est mon identité de musulman, c'est écrit dans le Coran, le prophète le faisait, tout ça, oui, on est entièrement d'accord. Toutes ces raisons qui motivent le croyant à jeûner ou à prier. Mais avant tout, il se prosterne, il s'abstient de manger et de boire parce qu'il adore Allah. Parce qu'avant tout, il doit reconnaître que Allah, c'est son khaliq, son malik, son raziq, son créateur, son maître, celui qui lui donne la subsistance, celui qui lui donne la vie, celui qui lui donne la mort, celui qui lui assure la nourriture, ce qu'il va consommer toute sa vie, et celui auprès duquel il va retourner après la mort. Et qui dit retourner auprès de lui, dit rendre des comptes. Et qui dit rendre des comptes, dit accès définitif pour l'éternité, soit dans le Jannah, dans le paradis, Allahumma ja'alna minhum, soit dans le Jahannam. C'est-à-dire, si quelqu'un fait ce cheminement, vraiment, et qu'en plus de ça, il apprend à connaître Allah, et c'est le gros manque du musulman. Si on dit une personne, je ne parle pas des gens présents, mais du même général, si on prend un échantillon de musulmans dans le monde, on le met sur une chaise, On lui dit, parle-moi d'Allah, qui est ton Allah? Tu viens de faire la salat. Parle-moi d'Allah, dis-moi tout ce que tu connais. Il va dire qu'il y a un seul Dieu, on doit adorer que Allah, et Allah, c'est notre Dieu. Très souvent, ça s'arrête à là. Quelqu'un qui a un petit peu plus de connaissances, il va pouvoir dire quelques points en plus. Mais le gros souci, c'est ça. Le musulman, le croyant, ne connaît pas suffisamment qui est son Allah, son Rabb. Et mes chers frères, ça rappelle pour nous tous, hein. Comme l'ange Jibril, il fait le rappel aux sahaba. Donc nous aussi, on a besoin de faire le rappel entre nous, oui ou non? On a besoin de faire le rappel parce que nous sommes plus faibles que les sahaba. Il y a la différence entre la salat de Isha accomplie par moi-même, Ibrahim, et la salat de Isha accomplie par Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. On est tous d'accord? On est tous d'accord qu'on ne peut même pas comparer. Ce serait un manque de respect d'essayer de peser pour voir quelle action est plus lourde. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus de raka'at que d'autres? Non! Si maintenant je dis je vais dépasser la salat Isha de Boubacar, je fais 18 raka'at. Ma salat ne compte pas. Si je dis que je vais faire un sijda d'une heure, la salat compte, mais c'est mauvais. J'ai donné difficulté aux gens qui font la salat derrière moi. C'est contraire à la sunnah. C'est-à-dire que ma salat, la salat d'Abou Bakr, elle est identique en termes quantitatifs. Le nombre de raka'a, elle est pareil. Il lit Fatiha, je lis Fatiha. Il dit Amin, je dis Amin. Il lit des versets du Coran, je lis des versets du Coran. Même si je lis un juz ou trois juz, et que lui, il a lu Salat ayat, trois versets, son salat est incomparable. C'est comme une montagne, de l'autre côté, il y a un grain de sable. Alors que c'est les mêmes position, même nombre de sujouds, de recours, de même chose qu'on lit dans le tashahhud. Qu'est-ce qui fait la différence? Le amal est pareil. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'il y a dedans. Le iman qu'il y a dedans. Quand Abu Bakr al-Siddiq, Omar al-Khattab, Uthman, Ali, Sahaba, les gens pieux, lorsqu'ils se prosternent, ils savent devant qui ils se prosternent. Le cœur frémit. Idha dhukir Allahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Qu'est-ce qui augmente? زَادَتْهُمْ إِمَانًا Qu'est-ce qui augmente? La foi augmente. وَعَلَى رَبِّهِمْ Allah, Allah, Allah. يَتَوَكَّلُونَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ augmente. Il entend un verset, son iman explose. Son iman augmente. Sa confiance en Allah augmente. Alors que nous, on a beau écouter Soudaï, Shuraï, Mouaïkili, tout ce que vous voulez dans la radio, CD, dans les oreilles, de je ne sais pas quoi, on écoute. Allah Musta'an. Tout est une question de foi et de connaissance d'Allah. Plus on va connaître Allah, plus on voudra l'adorer. Plus on connaît Allah, plus on aura de la honte, haya, de désobéir à Allah. Quelqu'un qui connaît Allah, est-ce qu'il va se dire, ça, on le répète tout le temps, mais c'est mudakara. Est-ce que par exemple, demain c'est dimanche, il ne travaille pas? Est-ce qu'il va se dire, demain je ne travaille pas, donc je ne fais pas fajr? Je fais fajr du lundi au samedi. Et quand fajr est fini, je rentre, je bois mon café et je vais au bureau, au travail. Mais dimanche je ne travaille pas. Donc je me lève à 10h et je fais, j'ai pas besoin. Non, celui qui a iman en Allah et qui connaît qui est Allah, parce qu'il a étudié, il a appris les asma wa sifat, les noms, les attributs d'Allah. Il a médité sur la création d'Allah. Ça, c'est la deuxième chose. Là, on emboîte un peu le pas. Comment connaître Allah? En apprenant les sifat d'Allah, les qualités d'Allah. Ça, c'est important, mes chers frères. Deuxièmement, en regardant la création avec le cœur, avec al-qalb, le iman. Quand vous voyez quelque chose, tout ce que vous voyez doit vous rappeler la grandeur d'Allah. Voyez un documentaire, voyez un animal, un insecte, voyez je sais pas quoi. Allahu Akbar, hier sur Facebook, excusez-moi, les machin, je vois l'image, une fourmi qui s'agrippe avec deux pattes sur un rocher et qui est en train de boire de l'eau. Une image agrandie. Je dis Allahu Akbar. Qui c'est qui lui donne le qudra de faire ça? Il sait que l'eau se trouve à cet endroit. Il sait comment il faut faire pour ne pas tomber, pour ne pas se noyer, etc., etc. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'exemple qui me revient à l'esprit maintenant. Mais un musulman intelligent, tout ce qu'il voit, les montagnes, le volcan, la mer, il voit, subhanallah, il voit son analyse de sang. Il va faire un bilan. Le docteur dit, vous regardez si vous avez diabète, si vous avez tension, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Il regarde, globules blancs, globules rouges, tout ça. Il se dit, Allahu Akbar, qui c'est qui a mis tous ces potassiums, tout ce calcium, tout ce fer, tout ce je ne sais pas quoi dans mon corps, dans mon sang? Est-ce que je fais une demande? Oh Allah, j'aimerais avoir calcium, potassium, etc. Vitamine A, vitamine C. J'aimerais avoir des globules blancs qui, lorsque je suis malade, ils vont réparer les choses, ils vont produire des antibiotiques, des anticorps. Là, wallah, ça c'est la création d'Allah, sunnatullah. Allah a créé la création d'une manière parfaite, comme il le souhaite, comme il le voulait, d'une telle façon que cette création, elle soit autonome et elle puisse évoluer. Donc quand on voit tout ça, on a besoin de voir ça avec les yeux du cœur. Ça, ça augmente l'iman également. Et ça, c'est une action appréciée par Allah. Méditer sur la grandeur d'Allah dans la création. C'est ce qu'on appelle en arabe tawhid al-rububiyya. Reconnaître la grandeur d'Allah, reconnaître l'unicité d'Allah dans la création. Tout ce que vous voyez, vous dites que ça, c'est Allah qui a créé. Et quand on fait ce cheminement, on réalise ça, ça nous amène vers l'unicité d'Allah dans le culte, dans l'adoration, al-uluhiyya, tawhid fil uluhiyya. On se dit que celui qui a créé tout ça, c'est le seul qui mérite d'être adoré. C'est là le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqin illahu. Personne ne mérite. Personne n'est digne. Pourquoi on dit n'est digne? C'est-à-dire que personne ne mérite, n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Celui qui a créé, c'est celui qu'on adore. Celui qui n'a rien créé, celui que vous a, quelqu'un a taillé avec une pierre, avec une pioche. Ou alors le soleil, la terre, qui eux-mêmes sont des créatures. C'est eux qui vous donnent la santé, qui vous donnent la maladie, c'est eux qui vous protègent, c'est eux qui vous jugent, qui vous font accéder au paradis ou qui vous envoient en enfer. Là, wallah. Alors, au nom de quoi les gens le culte, le ibad. Tawhidullah fil uluhiyya, l'unicité dans le culte, dans l'adoration. Et ça, ça amène vers la conviction qu'Allah, il est parfait. Ça, c'est l'unicité d'Allah dans Al-Asma, Al-Sifa, dans les noms et les attributs. Donc, deux actions. Apprendre les sifats, les qualités d'Allah. Méditer sur la création d'Allah. Et on pourrait même aller plus loin. Essayer de connaître toute la création d'Allah, même dans le monde de l'invisible, pour réaliser la grandeur et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier point que notre prophète alayhi salatu wa salam a cité, et ça c'est important, les ulama disent que chaque croyant doit consolider au maximum le iman de son cœur pour que sa salat soit mieux faite et que l'objectif soit atteint. Là le ramadan arrive, mes chers frères. Clignez les yeux une fois, on est au mois de Sha'ban. Clignez les yeux une deuxième fois, on est déjà au mois de Madame. Ça va vite, vite, vite. On se souvient encore de la tarawih. C'est comme si ça fait 3 mois ou 4 mois. Ça enchaîne, ça va vite. Ça, c'est Ashratus Sa'a. Ça fait partie des petits signes du Qiyam. Le temps, il passe très vite. Il n'y a plus de baraka. Il n'y a plus de bénédiction dans le temps. Les choses avancent. Les mois, les années s'enchaînent. C'est grave, c'est pas grave, ça. Est-ce que c'est inquiétant, c'est pas inquiétant? Oui, c'est inquiétant. Le musulman doit s'inquiéter d'un jour qui passe sans qu'il ne s'est rapproché d'Allah. Ça veut dire qu'à la fin de chaque journée, qu'Allah nous tawfiq de faire, à nous-mêmes en premier, à la fin de chaque journée, le croyant doit faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, depuis le matin jusqu'au soir? Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais comme bonnes actions? Qu'est-ce que je fais comme péché? Et si je vois que je fais tel péché, qu'à 8h j'ai pris le bus, j'ai trouvé 12 copines, un après l'autre, depuis 8h jusqu'à 8h30, je fais la bise. Chaque personne, là il y a 12 péchés. Telle situation, tel endroit, je fais tel péché. Tel endroit, telle heure, tel moment, je fais tel péché. Fais le bilan, regardez quelles sont mes erreurs. Et demandez tawbah à Allah. Demandez tawbah premièrement. Et deuxièmement, essayez de réfléchir à comment ne plus, dites-moi, répéter ces péchés. On ne va pas demander tawbah tous les soirs. Et puis, c'est comme si quelqu'un boit un poison, le soir il boit antibiotique, et le lendemain il relève, il reboit le même poison, le soir, ça avance à quoi? C'est-à-dire qu'on voit nos erreurs. Parce qu'il ne faut pas avancer. Si on suit le rythme du vie de la société, tout est axé autour de la réussite, autour du matériel, autour du dunya. Achetez plus, consommez plus, vous serez plus heureux. Avant, il y avait des petites pubs. Maintenant, les pubs sont grands, géants. 3 mètres sur 4 mètres, 4 mètres sur 4 mètres. Achetez la voiture, achetez les boîtes de conserve, achetez les sous-vêtements, achetez les bananes, achetez tout, 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 il y a publicité. Faire entrer dunya dans le cœur de l'homme. Et si on suit le mode de vie de notre société, ben on va vivre comme ça. On va courir après les choses. Notre rêve, ce sera d'être comme ce monsieur-là. Non, il n'est pas là-bas, c'est un exemple. Ce monsieur qui a tout gagné. Il est devenu, il a fait Bac plus 9, il gagne 7000 euros par mois, il a une villa d'Aléo, je ne dis pas quel quartier, peu importe, il a une villa, la piscine, son madame, c'est bombastique. Il a une super voiture. Il a tout. Lui, c'est mon exemple. Ça, c'est l'homme, le croyant ou le non-croyant. Oh, voilà. Le croyant et le non-croyant deviennent pareils. C'est grave, oui, non? C'est-à-dire que si on prend un échantillon de musulmans, un échantillon de non-musulmans, on les analyse, on regarde quel est leur rêve, leur objectif. Si on retrouve la même chose, c'est grave. Parce que celui qui ne croit pas en Allah, il a le même rêve que celui qui croit en Allah, là wallah. Celui qui croit en Allah, qui est censé croire au paradis, à l'enfer, comment est-ce qu'il peut avoir les mêmes objectifs que celui qui ne croit pas en tout ça? Celui qui ne croit pas en tout ça, selon lui, quand il meurt, c'est fini. Il est réduit en poussière et c'est fini. Donc, il faut au maximum profiter de ce qu'on a. Sinon, si on meurt comme un perdant, comme un steak. On n'a rien eu, on n'a rien gagné, on n'a rien profité. Donc, tu es un loser. Mais celui qui a iman en Allah, son objectif doit être ulou al-him. Il doit avoir des objectifs très hauts. Objectif, c'est contentement d'Allah, mourir avec iman, accepté par Allah. Qu'Allah m'accorde le paradis, qu'Allah me fasse ressusciter avec les anbiya, les sahaba, les hommes pieux, me fait passer sur le sirat, pièce de l'éclair, le livre de la main droite, pas de péché, sans hisab. Ça doit être l'objectif du croyant, accéder au jannah, au plus haut degré, le firdaus, sous le contentement d'Allah, sous le trône d'Allah. Oui, non. Ça doit être muharrik, celui qui fait bouger, celui qui fait bouger le cœur du croyant. Et non pas avoir cet exemple, comme le monsieur, on a dit, il a telle chose, telle chose. Ce monsieur, il peut avoir la plus belle, hein, vous voyez le nombre de millionnaires, le nombre de milliardaires. Allah Akbar, j'étais en voyage quelque temps, on a pu voir dans certains quartiers, on va dire, on était à Paris, on voit les nouveaux riches, les Chinois, très riches, les Russes, très riches, les Arabes, les Émiratis, le Moyen-Orient, très riches. Mais ce mulk, ce royaume, on va dire, cet argent, ces voitures de luxe, on va se les Champs-Élysées, des gens qui roulent des voitures qu'il n'y a pas ici, d'accord? Mais ça apporte quoi, ça? Dites-moi. Est-ce qu'on rentre dans la tombe avec ma Mercedes? Est-ce que je rentre dans ma tombe avec ma villa, avec ma piscine? Est-ce que... Ah, wallah. Quand on meuse avec le kafan, le linceul. Petite parenthèse, même Maslak dit que quand on passe... Pas du coq à l'âne, mais petite parenthèse. Quand vous enterrez quelqu'un, vous le mettez dans le tissu blanc. On a le droit de mettre des petites bandelettes pour attacher. Oui, non. Mais quand on va déposer dans la terre, on va l'enterrer, on enlève les bandelettes. Parce que quand on met dans la terre, on ne met pas d'autre chose en plus. C'est que les trois pièces ou les cinq, c'est une dame, de tissu basse. Même les petites bandelettes là, on ne met pas avec lui. Ça, c'est pas son hat. Ça, c'était pour tenir, pour pas qu'avec le vent, ça s'ouvre. Mais quand on le pose de la tombe, c'est basse. Trois pièces de tissu et son iman et ses actions basses. Bonnes et mauvaises. Ça, c'est haqiqa. Ça, c'est réalité. Donc, quand on revient au texte. Quand un mu'min, il développe son iman, il voit le monde d'une autre façon. Il voit le temps d'une autre façon. Comme on vient de dire que le temps passe vite. Ben, ça doit nous inquiéter. Mais un jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche de la mort. Malik al-Maut, il sait exactement combien de temps il te reste à vivre. Parce que Al-Ajal, Allah lui a déjà dit qu'il faut prendre telle âme à tel moment, tel jour, telle année, etc. Lui, il connaît. Cet exemple qu'on a déjà dit dans pas mal de programmes, c'est comme si que dans cette assemblée, moi en premier, chaque personne a un numéro. Qui c'est qui part en premier? Parmi nous, il y a peut-être des gens qui ne vont pas faire Ramadan. C'est-à-dire qu'ils vont mourir avant, oui ou non? C'est possible. Et alors, en dessous du numéro, il y a un compteur. Lui, il lui reste 4300 jours. L'autre, il lui reste 29 jours. L'autre, il lui reste un jour et demi. Il lui reste quelques instants. C'est possible, c'est pas possible. Des fois, on est avec quelqu'un, on entend qu'il a fait un accident, il a eu un problème, arrêt cardiaque, fini, il est mort. Hadji, il était avec moi hier. Oui, il était avec toi hier, mais ça, c'est dunia. Il était avec toi hier, aujourd'hui, il n'est plus avec toi. Si son ajal est terminé, son rizq, sa subsistance est terminée, il est retourné auprès d'Allah. Maintenant qu'il retourne auprès d'Allah, sans plus Allah. Qu'est-ce qu'il a amené dans ses bagages? Bonne action, mauvaise action, quel degré de iman? Donc, quand quelqu'un développe, et ça c'est la base, quand on va jeûner ce mois de Ramadan, comme quand on fait la salah, on doit réaliser, on jeûne pour Allah. Je ne mange pas, je ne bois pas, pas parce que c'est mon habitude, c'est la tradition, non. Je le fais par amour et par crainte d'Allah, par soumission à Allah. Et ce mot soumission, mes chers frères, c'est le plus important. Soumission, c'est al-istislam, lillah. Et c'est la nature du musulman d'être un musulman. Celui qui s'est soumis à Allah. Soumis, c'est j'ai été créé pour Allah et j'adore Allah, je fais tout ce qu'Allah m'a demandé. Donc, le prophète Ali, salat wa salam, il répond immédiatement à l'ange Jibril. Il dit que la foi, c'est al-tu'mina billah. محدثين دي تسبيك أن تؤمن بأن الله سبحانه موجود حي عليم قادر رب العالمين سينيور دي مون celui qui est éternel celui qui connaît tout celui qui est capable de tout له الملك المطلق à lui la royauté le pouvoir sur toutes choses وله الحمد المطلق toutes les louanges les puretés reviennent à Allah وإليه يرجع الأمر كله tout retourne auprès d'Allah. Les plus grands rois, tout comme les tyrans, les oppresseurs, les gens pieux, toute personne qui quitte ce dunya, qui meurt, toute créature revient auprès d'Allah. Et quand on remonte, on est ressuscité auprès d'Allah, c'est quoi la règle? Maliki Yawmiddin. C'est Allah le maître du jour d'attribution. Là-haut, personne ne parle. Il y a un verset, je passe, ça me revient, là, où personne ne parle, personne ne peut même prononcer un mot sans l'ordre, sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Les versets qui expliquent que le joueur des comptes, lorsque les gens vont vers la terre du mahshar, la tasma'u illa hamsa. Personne ne parle, les gens sont angoissés. Le seul bruit qu'on entend, c'est les pas des êtres humains qui marchent pour aller vers l'endroit où ils vont être ressuscités pour être jugés. Ça c'est haqiqa de l'au-delà. Ilayhi yurja'u al-amru kullu. Et là où personne ne parle. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. En ce jour, personne ne parle. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus rien du tout. Il y a Allah, Khaliq, qui prend les décisions, et il y a Makhlouq. Tout le reste, c'est les créatures d'Allah. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ لَا يَسْتَحِقُهَا أَحَدٌ سِوَا. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Ça, on avait vu tout à l'heure. وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلِهِ تُكْلَانَ. C'est uniquement lui qu'on doit avoir la conviction, la confiance totale. وَمِنْهُ النَّصْرُ وَالتَّوْفِيقُ. C'est en Allah qu'on doit avoir l'espoir de facilité, d'ouverture, de victoire. Quelqu'un dans une difficulté, quelqu'un un problème, qu'est-ce qu'il dit dans la salah? إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Tout le monde le connaît ça. C'est Allah qu'on adore. Mais l'autre partie, est-ce qu'on a mis en pratique? وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. On s'en remet à Allah. On demande l'aide à l'isti'ana billah. Est-ce que c'est vraiment cette réalité qu'on a compris, on a réalisé, qu'on a fait entrer dans nos cœurs? Quelle que soit la situation de la vie, le mu'min, il lève ses mains, il s'adresse à Allah Azza wa Jal. Dans tous les problèmes, dans toutes les situations de sa vie. Wa minhu at-tawfiq. Et tout est une question d'acceptation d'Allah. Je veux me rapprocher de lui. J'aimerais devenir un bon musulman. J'aimerais que dans ce mois de Ramadan, je m'approche d'Allah, qu'Allah m'accepte. C'est ça le mot, qu'Allah m'accepte. C'est pas que je vais faire telle chose, je vais devenir un homme pieux. Non, tout d'abord, c'est demander à Allah de nous accepter. Quelqu'un qui vient à la salat al-Isha, c'est quelqu'un qui a été choisi par Allah. Autrement, il y a d'autres personnes musulmans comme vous, dans votre voisine, dans votre quartier, à l'heure d'Isha, il a 6 quartiers avec les doigts de pied en éventail, il regarde, il zappe, Canal Sat, Tantenne Réunion, je sais pas quelle a fait, il regarde tout et n'importe quoi, en mangeant sa glace, son chip, son popcorn et tout. Mais nous, on est venu à la salat al-Isha, ni'ma min Allah. Il m'a dit, ça c'est tawfiq min Allah. Ça c'est la maison d'Allah, oui non? L'endroit où il y a une malaïka, oui ou non? Les shayatines ne viennent pas là. Les gens viennent ici pour se prosterner devant Allah. On est là, c'est une grande chance. On est là, c'est qu'Allah nous a choisis. Allah a vu quelque chose de bien en nous et nous a amenés vers sa maison. Vers Bayt min Buyutillah. Et qu'ensuite, on était à 100, je ne sais pas, on dit au hasard. Pour la salah, il y en a 50 qui sont restés pour écouter la parole d'Allah. Tawfiq min Allah. Allah choisit les gens pour rester, pour écouter. Parce qu'on sait que dans une assemblée de ilm, à la fin, les péchés sont pardonnés et transformés en bonnes actions. Et Allah mentionne le nom des personnes présentes dans les assemblées meilleures. Hadith rapporté par Imam Ahmed. Donc ce sont là des grands, grands, grands avantages, des grandes récompenses qu'Allah donne à qui il veut. Donc le fait d'être là aussi, c'est tawfiq minna. Donc ça c'est le sens de waminhu tawfiq. Tout dépend de la volonté d'Allah. Donc on doit toujours, même pour les bonnes actions, on doit demander à Allah de nous accepter, de nous choisir. Et c'est pour ça, vous voyez, chaque fois qu'on retourne vers les bases, Al-Fatiha. Qu'est-ce qu'on lit dans Al-Fatiha? Ihdinas sirat al-mustaqim. Demandez à Allah de nous guider vers le droit chemin. Parce que c'est Allah qui guide vers le droit chemin. Celui qui veut être le droit chemin, nous, les Fassins disent que quand quelqu'un est déjà musulman, pourquoi il demande Ihdinas sirat al-mustaqim? Parce que par opposition, après il y a salat alladhina an'amta alayhim ghayril, dites-moi, maghdubi alayhim wala ad-dallin. Et on connaît c'est qui? Ceux qui ont couru la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés. On connaît c'est qui? Donc nous on ne fait pas partie de ces gens-là. On est dans Ahl al-Sirat al-Mustaqim déjà. On a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans notre cœur. Les ulama disent que le croyant doit tout le temps demander à Allah, tawfiq, oh Allah accepte-nous, guide-nous, garde-nous dans le droit chemin jusqu'à là. Bon, hatta ya'tiyakal yaqin. C'est ça l'objectif du croyant. Que quand Malik al-Maud reprend mon âme, il m'annonce la bonne nouvelle qu'Allah est content de moi. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki. Dites-moi, est-ce que cet homme qui est en train de mourir devant nous et qui reçoit, nous on n'entend pas, parce que lui il entend, c'est le seul qui entend, parce qu'il a déjà un pied dans le monde de l'invisible, donc il voit, il entend les malaïques, nous on ne voit pas, les gens autour ils pleurent, ils croient que notre grand-père est en train de souffrir, il est en train de, Allah Akbar, il obtient bonne nouvelle, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ça c'est l'homme le plus heureux. Nous on croit qu'il fait pitié. Il est dans réanimation, il est dans, je ne sais pas, avec les appareils et tout. Il fait pitié, Allah, mon cœur fait mal, mon grand-père, il a souffert avant de mourir. Et il est en train de recevoir la bonne nouvelle que ta vie a été acceptée par Allah. Ton existence, le but de ta création a été concrétisé. Allah est content de toi, retourne vers lui. Et dans cet hadith, il même dit qu'ils annoncent qu'Allah t'adresse les salams et tu retournes auprès d'Allah et Allah t'accueille avec contentement. Et son âme monte, est acceptée par les anges. Bref, etc. On connaît les hadiths. D'accord? Ça, c'est l'homme le plus heureux. Ça, c'est l'objectif du musulman. Donc, toujours, dans la Fatiha, demander à Allah tawfiq de rester dans le droit chemin jusqu'à la mort. Ça doit être ça, nos objectifs. On ne doit pas mettre la pression à nos enfants. Si, certes, on doit les enseigner, réussir de leur travail. Mais il ne faut pas que le discours ambiant à la maison, ça tourne uniquement autour de la réussite scolaire. Gagne ton brevet, ton bac, réussis ta licence, ton maîtrise, ton master, et puis tu auras tel. Ça doit pas être. Ça, c'est bien ça. Parce que voilà, atteindre sa lancée va comme une dunya. Il ne faut pas non plus oublier notre dunya. On a besoin d'avoir une famille, on a besoin de, bi'idhnillah, amener la nourriture à la maison, bi'idhnillah, faire les actions, les asbab, les intermédiaires pour obtenir ça. Parce que ça aussi, c'est ibadah. Ça, c'est un autre sujet. Mais le discours à la maison doit être axé sur la réussite et le contentement d'Allah. La réussite de l'iman, de la foi et l'obtention du contentement d'Allah. Parce que si dès l'enfance, on va concentrer tout notre discours sur la réussite, sur le travail, sur les études, sur l'intégration, etc., etc. Mais quand est-ce que nos enfants vont comprendre que j'ai besoin d'être un bon croyant, que ce qui est important, ce n'est pas uniquement le regard de la société sur moi, le regard de mon patron, le regard de mon supérieur hiérarchique, non. Ce qui est au-dessus de ça, c'est le regard de mon Rabb, de mon Seigneur sur moi. Ça, c'est le travail de chaque papa, de véhiculer ces messages à la maison. Une petite anecdote, excusez-moi, une petite histoire, puis on va s'arrêter aussi. On en est à... Oh Allah, je voulais faire 35 minutes, on est à 42. J'étais avec un monsieur, un médecin, enfin pas vraiment un médecin. Il m'expliquait, il me dit, voilà, j'ai une nièce qui a un master en tel domaine. Elle n'a pas de travail. Elle a continué à faire un deuxième master. Elle n'a toujours pas de travail. Elle est ici, elle était en France, elle est venue ici. Là, elle est en train de faire un doctorat. Mais c'est des trucs de malade, hein, des trucs compliqués. Hein. C'est pas un doctorat pour faire le pain, pour monter un mur. Non, c'est des trucs que, comme si que, quand, je dirais, quand tu vois, tu entends le terme, tu dis que c'est, il faut être un génie pour faire ça. Mais elle a tout. Maîtrise, doctorat et tout. Pas de boulot, rien. Il cherche un petit travail. D'un restaurant ou pour un petit truc, c'est bien les gens pour gagner un SMIC, quelques heures. Ça, c'est de rien, dites-moi. On nous fait miroiter la réussite par le biais des études, par le biais du travail. Vous serez heureux. Travaillez, on va pas dire travaillez plus, vous gagnez plus. Travaillez, vous gagnerez, vous aurez telle chose. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça c'est dunya. Mais auprès d'Allah, il n'y a aucune tromperie. Celui qui vient vers Allah avec un cœur pur, avec de bonnes actions, akid, bilan, chaque sang, le moindre doute, il obtient le contentement, l'agrément d'Allah, il obtient les récompenses auprès d'Allah. Mais le verset, j'essaie de me rappeler, inna sa'yakum la shatta, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Celui qui veut faire, je traduis pas littéralement le verset, celui qui donne, qui croit en Allah, qui avance, qui il veut obtenir le contentement d'Allah, il aura assurément. Et plein d'autres versets qui vont dans ce sens. Ça, c'est la promesse d'Allah. Ça, c'est important de développer ces notions nous-mêmes et d'enseigner ça à madame et aux enfants. Et on va voir comment l'ambiance change dans la maison. Quand les objectifs changent, la vision du monde change. L'objectif de ma fille aussi, qui a 18, je ne sais pas, je dis au hasard, qui a 16 ans, 17 ans, là, si je la laisse dans la jungle du dunya, son but, excusez-moi, on va avoir un langage cru, mais un langage réel, son objectif, c'est à 15 ans, elle a son premier rapport. Oui ou non? Parce que toutes ses copines, à 14 ans, elles ont eu leur premier rapport intime. À 14 ans, elles ne sont plus vierges. À 15 ans, elles ont leur premier copain. Et elle, si elle ne l'a pas, elle n'a pas fait, c'est comme si qu'elle est en retard. C'est comme si qu'elle est aliénée ou qu'elle n'a pas eu de développement psychologique comme tout le monde. Elle se sent amoindrie. Donc son but, à 14-15 ans, c'est quand je vais au collège, j'allais dire au lycée, quand je vais au collège, je me maquille, je mets mon rouge à lèvres, je mets mon gloss, je mets mon truc et tout. Si t'es gay, prends un mauvillac, t'es peine entier, etc. On fait tout ça, je vais mettre les chaussures à talons, je vais mettre le pantalon cintré, le petit décolleté, le petit machin, parfois on s'habille bien, et puis quand papa et papa rentrent de le bus, il enlève, il me donne sa cadeau, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me valoriser, je veux que les hommes, les garçons me voient, me trouvent belle et que je reçois des propositions, je sors avec eux, je tombe amoureux d'un joli mec et que quand mes copines me voient à ses bras, waouh, ah Fatima, en forme, hein, il a un joli machin, un beau copain, il est beau, il est machin, il est comme ça. Malheureusement, regardez à quel niveau on est tombé. Ce sera ça son but. Naoudou billah. Concrétiser le zina parce que le regard de ses amis était trop important. Parce qu'elle aurait honte que ses amis sachent que à 15 ans, 16 ans, elle est toujours vierge. Elle n'a pas de copain. Elle est bloquée. Elle est coincée. Comprenez le geste. Mais allô, c'est quoi? À 16 ans, tu n'as pas de copain? C'est comme si tu es une fille, tu n'as pas de cheveux. C'est pareil. C'est ce niveau-là. Wallah musta'an. Ça, c'est maqaf, c'est les objectifs. Si on laisse nos enfants grandir avec la vision du monde, du dunya, la société où on vit. C'est pour ça que moi, papa, maman, mon rôle, il est énorme. Quand le prophète dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati ». Ça, il faut graver sur le front, ça. Il faut écrire sur les lettres de la maison. Je suis papa. À la moitié de la salle, ici, on est papa. Nous sommes, Idriss et papa, machallah, de bons enfants. Nous sommes tous des bergers. Le berger, il fait quoi? Est-ce que le rôle du berger, c'est uniquement de donner à manger ses moutons? Oui, ça fait partie des objectifs. Mais quand le mouton est en train de marcher, il va bien précipice. Il a vu l'herbe est plus haute là-bas. Et il court. Il ne comprend pas, là-bas, il y a un trou. Le berger, il prend parfois son bâton, ou bien son sifflet, ou je ne sais pas, quels que soient les moyens, il va attraper ce mouton et dire, attention, là, je te ramène avec la troupe parce que tu es en train de t'égarer. Certes, l'herbe est plus fraîche, elle est plus belle là-bas. C'est la jeune fille qui voit le beau gosse avec son voiture cabriolet décapotable. Ce matin, elle passait près du lycée Buton, pour aller faire un travail derrière, on voit deux jeunes hommes, d'accord, en forme, hein, avec un Renault Mégane décapotable, lunettes solaires au clair. Je dis, ces gars-là, c'est comme si ils ont tout compris. Pour eux, ils sont au-dessus du monde, là. C'est comme si la roue touche pied à terre. Ils étaient contents. Ils étaient fiers. C'est comme si que c'est les rois, les princes du Butor. Allah Moustan. Et une fille qui trouve sa place à côté de ce mec, elle devient la princesse du Butor. Réalité, Rimma. Les objectifs sont bas parce que l'iman n'est pas entré dans le cœur. Et donc, moi, quand je vois ma fille qui court vers ce mec, qui essaie d'avoir ça, ou que mon fils, lui, son but, c'est d'avoir une jolie copine, ou alors avoir ci, avoir telle chose. Vous savez, les schémas, avoir la moto pour pouvoir draguer un petit peu, avoir le permis 16 ans, avoir la voiture pour pouvoir, etc., etc. Je dois ramener tout ça. Attention, oui, tu auras ta voiture, tu auras tout ça, mais attention, objectif du mu'mine, c'est ça. Ne te laisse pas tenter. L'herbe est fraîche là-bas, elle est verte, mais si tu continues, tu vas tomber. Et quand on tombe, on a du mal à remonter. On a du mal à revenir. Arrête de donner l'importance au regard de tes amis, au regard des gens. Yomul Qiyam, allez, avant Qiyam, quand on te met 7 pieds sous terre, qui vient t'aider? Tes amis, Olivier Buton, Geoffroy, les Vavasseurs, Rontonnet, je sais pas, les autres quartiers, deux canons, c'est pas eux. On a deux anges. Ton Rab, ton Din, ton prophète. Il ne cause pas avec toi, il ne tweet pas autre, il Facebook, c'est pas ton copain Facebook, rien. Il ne t'envoie pas une notification, dis-moi, ouais, quelle est ta religion, rien. Direct les questions, tu réponds, alhamdoulilah, tu ne réponds pas, tu vas voir ce qui se passe. Réalité, haqiqa, où sont les gens? Où sont tes amis? Où est ton patron? Où sont tes collègues de bureau? On a parlé de cas de personnes, Allahu Akbar, qui font des études, je ne sais pas dans quel domaine, ils sont à Paris, musulmans, ils renient l'iman, mais d'une façon incroyable, pour pouvoir être avec la haute société. Il s'appelle Mohammed, il s'appelle Ismaïl, mais il sait que s'il garde l'identité de musulman, on n'accepte pas d'aller au milieu. Donc il retourne la veste, il jette la veste même. Faut que je suis quelqu'un, je ne crois pas en rien, je suis athée, je suis comme vous. On fait passer les makhlouqat avant Allah, on peut faire le shirk billah, renier son iman, parce que le regard de ces gens-là, c'est trop important pour moi. Mais dites-moi où est-ce qu'ils seront? Est-ce qu'ils viennent avec vous dans la tombe? Est-ce qu'ils seront avec nous le jour des comptes quand on passe devant le tribunal d'Allah? Le Prophète me dit que chaque personne est appelée par son nom, le nom de son père, et présentée devant Allah qui pose des questions. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ لي كتابك كفى بنفسك اليوم عليك c'est toi-même ton juge. Maintenant lis ton livre. Quand chaque personne reçoit son livret d'action, soit dans la main droite Allah جعلنا منهم, soit dans la main gauche dans l'afia, Allah dit que il n'y a pas besoin que c'est Allah qui te rappelle. Allah te dit voilà ton livre, اقرأ كتابك, lis maintenant. Et ce que tu as fait, tu trouves. Maintenant, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut trouver dans notre livret d'action. Et c'est là la relation entre ce que je fais et le destin. Qu'est-ce que je veux trouver dans mon livret d'action? Je veux trouver de bonnes actions? Harik, dès maintenant, bouge-toi et fais de bonnes actions. Si je me laisse aller vers le dunya, vers les pulsions, vers les passions, vers tout ce que le dunya invite, le jour des comptes, je risque de retrouver que les péchés, que les choses mauvaises. Mes chers frères, qu'Allah nous tawfiq de renforcer notre iman et d'étudier le Coran, d'étudier les hadiths, d'aller vers la science religieuse, d'apprendre à connaître qui est notre Allah, qui est notre Rabb, de développer l'iman comme les sahaba l'avaient fait, afin que nos actions aient une lumière. Et que ces actions-là atteignent leurs objectifs et nous rapprochent d'Allah. Et qu'Allah nous donne la possibilité, Inch'Allah, de la santé pour vivre ce mois de Ramadan en parfaite condition physique et spirituelle, qu'on puisse vraiment, vraiment profiter de ce Ramadan et qu'on prenne de bonnes résolutions. Que ce Ramadan 2013 soit meilleur que le Ramadan 2012. On fait plus de Qiyamul Layl, on lit plus le Coran et on lit le Coran intelligemment. On lit en arabe, on essaie de lire en français, on essaie de comprendre, décrypter, voir la lumière qu'il y a dans chaque verset, afin que quand l'imam va lire le Qiyam Salat al-Tarawih, on écoute avec une certaine compréhension, on essaie d'avancer, etc. Inch'Allah, qu'on se fixe ses objectifs et avant tout, on demande à Allah de nous donner tawfiq, de nous accepter pour faire ses actions. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dernier point, ça sera en dehors du programme.